Il me semble que vous pourriez m'envoyer des rubans de tête dans le nombre et dans la qualité qu'il vous plaira. Miracle de la nature. Je vous avais prié de m'envoyer une belle paire de fesses quand il y aurait un duplicata à signaler. Et au lieu de cela, vous m'avez envoyé le lieutenant Charles qui m'a dit qu'il était l'homme du roi, colombe de Vénus. Voilà ce qui s'appelle se tromper de la cause à l'effet. Rose, échappée du Saint des Grâces, il ne me reste plus qu'à vous demander en vertu de quoi le refus du vin de pêche. Quelle analogie peut-il y avoir entre les constitutions de l'État et les fibres de mon estomac? Une ou deux bouteilles de vin de pêche, mon fanfan, pourraient-elles ébranler la loi salique, porter atteinte au code justinien? Ô favorite de Minerve, c'est à un ivrogne qu'il faut faire de pareils refus, mais moi, qui ne m'enivre que de tes charmes, et qui ne m'en rassasie jamais en broisie de l'Olympe, il ne faut pas me refuser du vin de pêche. Charme des yeux, je te remercie de la belle estampe de Rousseau que tu m'as envoyée, flambeau de ma vie. Quand tes doigts d'albâtre viendront-ils comme ça changer les fers du lieutenant Charles contre les roses de ton sein? Adieu, je le baise et m'endors.
Thank you.
De la mère à la fille, qui atteint ce point en tant qu'homme ? De la mère à la fille, qui atteint ce point en tant qu'homme ? Transgression sans retour, ici parce qu'elle met en crise l'essence de la valeur d'échange, la preuve. Tout se gâte définitivement pour Sade, à partir de son aventure avec sa belle-sœur. Remarquons que là-dessus, il reste muet. Il prend une fille en plus, complètement gratuite donc. Or, une fille en plus, c'est le père bafoué, certes, il ne vaut que pour une, le commandeur. Mais surtout, la mère est mise en cause, elle qui vient là au nom de son père, en relève de la fonction paternelle. Que le phallus du père des enfants soit défaillant, passe encore, mais le phallus de la mère, c'est trop. Et de plus, deux filles complices, l'une qui va jusqu'à appeler sa mère la hyène, et qui ne semble pas autrement jalouse de sa sœur, et réciproquement. Elles incestent avec un père qui n'est pas le leur ni celui de leur mère. Comme quoi, ce n'est pas le père de la fille qui est principalement lésé, mais bien le père de la mère, le grand-père maternel, auquel la petite fille ne saurait en aucune façon avoir accès, mais qu'un fils incestueux, lui, peut déloger de sa place par rapport à la mère, en quoi d'ailleurs cette mère le hait. Surmonter le père simple, péché véniel, le dit bien, et recommandé, mais le père de la mère, péché mortel, rapt, symbolique, comme si tout était renommé. La présidente se retrouve donc fille, face à cet autre père qui lui prend ses filles. Le trône et l'autel sont par conséquent en danger. Si Sade n'avait été qu'homosexuel ou que libertin, il est probable que nous n'en aurions jamais entendu parler. Mais ce qu'il corrode, c'est le contrat social lui-même. Et ce contrat, de quoi est-il fait ? De la répétition d'un meurtre nié, dont la jouissance qu'il procure doit rester en principe éternellement refoulée. Sade sait, à partir de là, que tout discours ne peut par définition que tenter d'en couvrir un autre. Voyez la manière dont il marque son désir en réécrivant ce que sa femme lui écrit. Découvrant l'interprétation, il la court-circuite de l'universel et l'agit musicalement, en langue. Tout le reste, les bonbons de Marseille, etc., et littérature, mauvaise littérature, celle des policiers, des huissiers, des juges, celle de la présidente, aux tripes pleines de chiffres, à la vilaine âme de boue, celle au fond de la chimère déifique. Le scandale est donc de révéler que la mère n'a jamais eu affaire au père, à l'homme, mais à son père. La mère est une petite fille, et cette affaire d'ailleurs est orale, anale, elle aussi, sa bouche, son cul, plus que son sein et son vagin. Retourner une mère difficile. On peut se rendre coupable de tous les abus et de toutes les infamies possibles, dit Sade, pourvu qu'on respecte les culs des putains. La mère en prescrira la lecture à sa fille, lit-on en exergue de la philosophie dans le boudoir. Justement, l'impossible est là. On ne voit pas ce qu'une mère et une fille pourraient lire ensemble. Sade a d'ailleurs renversé la phrase d'un pamphlet révolutionnaire de 1791. La mère en proscrira la lecture à sa fille. Et le titre de ce pamphlet, Fureurs utérines de Marie-Antoinette, femme de Louis XVI. Entre une mère et une fille, il y a, et pour cause, interruption de symbolisation. Et c'est dans cette interruption que Sade écrit. Raison pour laquelle il est en prison, autrement dit illisible, suprême ironie de Sade, dédier sa philosophie à la mère, éduquant ses filles. L'acte de Sade, c'est donc d'avoir des filles de sa mère et de les incester comme père, autour de quoi il fait tourner l'homosexualité, dont il est ainsi le premier explicitement à ne plus être le satellite. Inscrire ouvertement l'homosexualité parmi des femmes et la subvertir ainsi comme telle, voilà qui décrit la loi à sa limite. Cassant le contrat social, échange de femmes entre hommes, négation des femmes, Sade dépense la réserve obscène sur l'occultation de laquelle se construit la machine folle. Et le fait qu'une femme se soit acharnée contre lui prouve qu'il excède bien en ce point ce qui de l'homme en la femme refuse la femme, au contraire de l'homosexuel en désir de mère, et accomplissant le désir hystérique. Plus loin que l'hystérique, Sade, Freud ne l'a pas lu. Entre-temps, l'histoire passe. De gentilhomme libertin, Sade est devenu un écrivain fou qui fait danser les asiles, il devient donc un cas superclinique, ce n'est pas fini. Ce qu'il a su, en tout cas, qu'il serait, comme il dit, détenu sous tous les régimes. Jamais, vous le savez, écrit-il, ni mon sang, ni ma tête n'ont pu tenir à une clôture exacte. Sade, matérialiste, s'enivre à l'avance de l'infini d'oubli qu'il voit devant nous, devant lui. Quand il demande à disparaître sans laisser de traces, en effet, c'est le commandeur qui est statufié dans son cimetière, Don Juan, lui, a droit à la consommation directe. Il se flatte, dit-il, de disparaître de la mémoire des hommes. Les oubliant, tout à fait, il se rend pour eux inoubliable. On ne pourra se souvenir que péniblement de son ombre portée. La médiocrité de mon génie, ne me permettant pas d'en apercevoir les limites, tout ce qu'écrit Sade est humour. Et un jour il est mort. Absolument.
Thank you. Hey,
La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands, afin que, par la suite, le terrain de ladite fosse, se trouvant regarni, et le taillis se trouvant fourré, comme il l'était auparavant, les traces de ma tombe disparaissent de dessus la surface de la terre, comme je me flatte que ma mémoire disparaisse de la mémoire des hommes. Nous distinguons en général deux sortes de cruauté. Celle qui naît de la stupidité, qui, jamais raisonnée, jamais analysée, assimile l'individu né tel à la bête féroce. Celle-là ne donne aucun plaisir, parce que celui qui y est enclin n'est susceptible d'aucune recherche. Les brutalités d'un tel être sont rarement dangereuses, il est toujours facile de s'en mettre à l'abri. L'autre, espèce de cruauté, fruit de l'extrême sensibilité des organes, n'est connue que des textes extrêmement délicats. Et les excès où elle les porte ne sont que des raffinements de leur délicatesse. C'est cette délicatesse trop promptement émoussée à cause de son excessive finesse qui, pour se réveiller, met en usage toutes les ressources de la cruauté. Qu'il est peu de gens qui conçoivent ces différences, comme il en est peu qui les sentent. Elles existent pourtant, elles sont indubitables. Or, c'est ce second genre de cruauté dont les femmes sont le plus souvent affectées. Étudiez-les bien. Vous verrez si ce n'est pas l'excès de leur sensibilité qui les a conduites là. Vous verrez si ce n'est pas l'extrême activité de leur imagination, la force de leur esprit qui les rend scélérates et féroces. Aussi, celles-là sont-elles toutes charmantes. Aussi, n'en est-il pas une seule de cette espèce qui ne fasse tourner les têtes quand elle l'entreprend. Malheureusement, la rigidité, ou plutôt l'absurdité de nos mœurs, laisse peu d'aliments à leur cruauté. Elles sont obligées de se cacher, de dissimuler, de couvrir leur inclination par des actes de bienfaisance ostensibles, qu'elles détestent au fond de leur cœur. Ce ne peut être que sous le voile le plus obscur, avec les précautions les plus grandes, aidées de quelques amis sûrs qu'elles peuvent se livrer à leurs inclinations. Et comme il en est beaucoup de ce genre, il en est par conséquent beaucoup de malheureuses. Voulez-vous les connaître ? Annoncez-leur un spectacle cruel, celui d'un duel, d'un incendie, d'une bataille, d'un combat de gladiateurs. Vous verrez comment elles accourront. Mais ces occasions ne sont pas assez nombreuses pour alimenter leur fureur. Elles se contiennent et elles souffrent. Jetons un coup d'œil rapide sur les femmes de ce genre. Zingua, reine d'Angola, la plus cruelle des femmes, immolait ses amants dès qu'ils avaient joui d'elle. Souvent, elle faisait battre ses guerriers sous ses yeux et devenait le prix du vainqueur. Pour flatter son âme féroce, elle se divertissait à faire piler dans un mortier toutes les femmes devenues enceintes avant l'âge de 30 ans. Zoé, femme d'un empereur chinois, n'avait pas de plus grand plaisir que de voir exécuter des criminels sous ses yeux. À leur défaut, elle faisait immoler des esclaves pendant qu'elle foutait avec son mari et proportionnait les élans de sa décharge à la cruauté des angoisses qu'elle faisait supporter à ses malheureux. Ce fut elle qui, raffinant sur le genre de supplice à imposer à ses victimes, inventa cette fameuse colonne des reins creuses que l'on faisait rougir après y avoir enfermé le patient. Théodora, la femme de Justinien, s'amusait à voir faire des eunuques. Et Messaline se branlait pendant que, par le procédé de la masturbation, on exténuait des hommes devant elle. Les Floridiennes faisaient grossir le membre de leurs époux et plaçaient de petits insectes sur le gland, ce qui leur faisait endurer des douleurs horribles. Elles les attachaient pour cette opération et se réunissaient plusieurs autour d'un seul homme pour en venir plus sûrement à bout. Dès qu'elles aperçurent les Espagnols, elles tinrent elles-mêmes leurs époux pendant que ces barbares européens les assassinaient. La voisin, la Brinvilliers, empoisonnée pour leur seul plaisir de commettre un crime. L'histoire, en un mot, nous fournit mille et mille traits de la cruauté des femmes, et c'est en raison du penchant naturel qu'elles éprouvent à ces mouvements que je voudrais qu'elles s'accoutument à faire usage de la flagellation active, moyen par lequel les hommes cruels apaisent leur férocité. Quelques-unes d'entre elles en usent, je le sais, mais elle n'est pas encore en usage parmi ce sexe au point où je le désirerais. Au moyen de cette issue donnée à la barbarie des femmes, la société y gagnerait, car, ne pouvant être méchantes de cette manière, elles le sont d'une autre. Et répandant ainsi leur venin dans le monde, elles font le désespoir de leurs époux et de leurs familles. Le refus de faire une bonne action lorsque l'occasion s'en présente, celui de secourir l'infortune, donne bien, si l'on veut, de l'essor à cette férocité où certaines femmes sont naturellement entraînées, mais cela est faible et souvent beaucoup trop loin du besoin qu'elles ont de faire pire. Il y aurait sans doute d'autres moyens par lesquels une femme, à la fois sensible et féroce, pourrait calmer ses fougueuses passions, mais ils sont dangereux, Eugénie, et je n'oserais jamais te les conseiller. Ô ciel, qu'avez-vous donc, cher ange ? Madame, dans quel état voilà votre élève ? Eugénie, se branlant. Ah, sacre Dieu, vous me tournez la tête. Voilà l'effet de vos foutus propos. Dolmancé, au secours, madame, au secours. Laisserons-nous donc décharger cette belle enfant sans l'aider ?